Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
Il y a un commerce à côté qui est ouvert, l'autre à côté qui est ouvert et moi je suis fermée. Donc il y a des aberrations et là je commence à plus du tout rien comprendre.
21 millions de Français, pas vraiment sous cloche, mais avec des commerces qui referment et des limites de déplacement. Nous serons à Évreux en Normandie, dans une zone rouge et vous entendrez la colère du patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Voilà le retour aussi de l'attestation en journée, 2 pages, 15 motifs kafkaïens et déjà le ministère de l'Intérieur qui parle d'indulgence dans les contrôles. On essaiera d'y voir plus clair entre ce que vous pouvez faire ou pas. Couvre-feu en tout cas à 19h pour tout le monde dès aujourd'hui. Les Français qui en ont de plus en plus marre de ces restrictions, selon un sondage Odexa qui paraît ce matin dans le Figaro. On en parlera avec mon invité, l'économiste Claudia Sednik, directrice de l'Observatoire du Bien-être. L'actualité sportive avec le skieur Alexis Pinturault, peut-être sacré dans quelques minutes vainqueur de la Coupe du Monde. On n'avait pas vu cela depuis 25 ans en France. La météo pratiquement du soleil pour tout le monde, nous dira Valérie Darmon. Mais attention, les températures sont fraîches, dignes d'un mois de février. Et puis vous le savez, à 13h, on poursuit cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Un an que nous vivons avec le Covid, comment le vivent les plus petits qui ne voient plus que des yeux rieurs ou interrogateurs avec nos masques. Vous verrez que dans les crèches, on s'adapte. Et puis gros plan sur la forêt française qui souffre du réchauffement climatique.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nouveau tour de vis donc pour 21 millions de Français depuis ce matin, donc un Français sur trois tout de même, ce qui veut dire des déplacements limités. On y reviendra dans un instant avec Théo Manval qui nous présentera la nouvelle attestation, car vous verrez que les périmètres sont à géométrie variable suivant votre activité. Nouveau tour de vis donc en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans 3 départements, l'Eure, les Alpes-Maritimes et la Seine-Maritime, avec de nombreux commerces dits non essentiels qui ont dû refermer. Alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain dans ces fameuses zones rouges? Vous êtes à Évreux, dans l'Eure, Marion Gauthier, en Normandie. Et ce qui vous marque, vous m'avez dit, c'est qu'en apparence, eh bien, rien ne semble avoir changé.
Oui Fabienne, le marché accueille ses promeneurs habituels. La place s'est même transformée en buvette avec ses groupes d'amis épars, un gobelet de café dans la main, un sac de courses dans l'autre et la conscience tranquille puisque l'attestation de déplacement a fait son grand retour dans les poches.
Tout est en règle.
Le confinement se fait dehors, voilà. On est bien d'accord. Tous les samedis, je fais mon marché. Donc je fais mon marché et je viens prendre un café. Et ça ne changera pas. Moi, ça fait 40 ans que je fais ça.
Regardez le géoportail pour voir les 10 km, parce qu'on va prévoir de sortir, de marcher, de courir.
Mais balade illimitée, le programme du week-end ne change pas. Mais ce confinement étrange qui vient d'être décrété pèse moralement à Jean-Louis.
C'est un confinement parce qu'on n'a pas de projet. On avait des projets de partir en vacances, oui, on ne peut pas. Non, c'est... Il est allégé, tant mieux, mais ça reste un confinement.
Et d'autant qu'à la surprise générale, une partie de la ville est restée silencieuse ce matin, malgré le beau temps, malgré les attestations. Comme d'autres commerces dits non essentiels, Emma a dû fermer sa boutique de vêtements. Derrière sa vitrine, le désarroi dans ses yeux.
Je suis très remontée parce que je viens de traverser le centre-ville, qu'il y a des endroits où c'est archi plein, qu'il y a un commerce à côté qui est ouvert, l'autre à côté qui est ouvert et moi je suis fermée. Donc il y a des aberrations et là je commence à plus du tout rien comprendre. C'est violent, en plus c'est du jour au lendemain comme ça, même pas ils nous ont laissé le samedi, ça va être le coup de grâce.
Et on aurait pu réduire la jauge, ne faire rentrer qu'une personne à la fois, me dit Emma, mais on a préféré couper la ville en deux.
Marion Gauthier à Évreux pour Europe 1, donc on l'a compris, l'un des points marquants de ce nouveau confinement, c'est que beaucoup de commerces baissent le rideau, même si la règle a encore été assouplie hier soir avec les chocolatiers, les cordonniers ou encore les fleuristes qui vont rester finalement ouverts. Mais cela ne calme pas pour autant la colère du patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui était l'invité de la matinale d'Europe 1.
On a du mal à comprendre cet acharnement sur les commerces. Il y a eu énormément d'efforts de sanitaires pris, donc on ne comprend pas. En tout cas, il y a une forme de folie bureaucratique qui va se remettre en place, comme au mois de novembre. Ça fait allusion au problème dans les grandes surfaces où on va être obligé de fermer certains rayons. De toute façon, ce principe de confinement partiel des commerces ne fonctionne pas. On sait bien que ce n'est pas dans les commerces qu'on se contamine, en tout cas prioritairement, c'est au domicile avec ses proches, ses amis et sa famille. Donc, est-ce que c'est un absurdistan généralisé? Peut-être pas, mais en tout cas, sur ce plan-là, oui, c'est l'absurdistan. Et la clé de tout ça, c'est la vaccination.
Voilà, l'absurdistan, dit le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, avec Pierre Devineau. L'absurdistan, on va y arriver peut-être avec le retour, ouais. Le grand retour d'attestation en journée, notamment si on veut se déplacer entre zones confinées ou pas. Et le moins qu'on puisse dire justement, Témoineval, c'est qu'on n'a pas gagné en clarté quand on voit les deux pages de motifs de la nouvelle attestation du ministère de l'Intérieur. On a bien besoin de vos lumières. Déjà, il y a quatre périmètres possibles, rien que ça, deux déplacements.
Oui, alors prenez un papier et un crayon parce que vous risquez d'en avoir besoin. Sur ces deux pages, en effet, vous avez 15 motifs de déplacement. Les premiers, sans limite kilométrique, même dans les zones reconfinées. Donc vous pouvez aller n'importe où pour travailler, suivre une formation, vous faire soigner ou vacciner. Pour motif familial impérieux, c'est-à-dire voir vos proches, ils sont vulnérables, handicapés ou aller garder des enfants, pour convocation judiciaire, mais aussi pour les trajets des livreurs à domicile, pour un déménagement ou pour participer à une manifestation autorisée. Sauf que, première subtilité, Fabienne, dans ces déplacements sans limite kilométrique, certains sont possibles 24 heures sur 24, mais les trois derniers, livraison, déménagement et manifestation, ne sont possibles que de 6h à 19h, c'est-à-dire dans les limites du couvre-feu.
Alors ensuite, il y a les déplacements autorisés, cette fois dans un périmètre de 30 km.
Là, ça ne concerne que les départements confinés, où vous pouvez vous déplacer dans cette limite de 30 km et sans sortir du dit département pour aller faire des courses, des démarches administratives, aller à la messe, à la prière, dans un lieu de culte, et pour des déplacements dits de transit, c'est-à-dire pour aller prendre le train ou l'avion, par exemple, il faut que la gare ou l'aéroport soit à moins de 30 km et dans le même département que là où vous habitez. Enfin, il y a deux autres périmètres qui ont de quoi faire sourire. Vous pouvez aller vous promener, Fabienne, dans un rayon de 10 km si vous êtes en zone confinée, que vous voulez prendre l'air. Mais attention, si vous emmenez votre chien ou votre animal de compagnie, c'est 1 km, limite fixée pour sortir les animaux domestiques. Ça paraît absurde. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc.
Voilà, il va falloir choisir. Alors, une autre question, ce sera la dernière. On pourra en poser 10 000, effectivement. Si je vis dans un département non confiné et que je veux rendre visite à des proches dans une zone confinée, est-ce que j'ai le droit ?
Oui, vous avez le droit d'entrer dans une zone confinée, mais uniquement pour motif impérieux, aller voir des proches en difficulté, garder des enfants, vous faire soigner, mais aussi stipule l'attestation pour un déménagement, une formation ou participer à une manifestation autorisée.
Merci beaucoup Théo Manval et on comprend mieux pourquoi. À l'instant, j'apprends que Matignon prévoit déjà de simplifier cette nouvelle attestation parce que malgré tout votre talent, on n'a peut-être pas tout compris encore Théo. On le rappelle donc, couvre-feu pour tout le monde à partir de 19h. On comprend mieux aussi pourquoi la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaise, parle d'indulgence des policiers et des gendarmes ce week-end.
Les agents du ministère de l'Intérieur vont faire preuve de pédagogie pour que les gens comprennent bien ce système hybride que l'on met en place avec deux dispositifs. L'un qui est bien connu, c'est celui du couvre-feu à partir de 19h. Là, les contrôles seront stricts. Et puis, en journée, effectivement, il y a des mesures renforcées qui sont explicitées dans l'attestation de déplacement dérogatoire qui est en ligne depuis cette nuit. L'attestation est complexe. Il y a au total 15 catégories différentes au sein de cette attestation. Et pour chacun, il y a un rayon kilométrique. Il faut bien comprendre que les forces de l'ordre sont là pour faire de la pédagogie ce week-end, mais aussi pour verbaliser ceux qui, de manière éhontée, chercheraient à enfreindre les règles.
Voilà, Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui dit qu'on va faire de la pédagogie ce week-end. Elle était avec Marion Dubreuil. En tout cas, ça a incité de nombreux Parisiens à prendre le large, notamment vers l'ouest. 20% de trafic en plus sur les routes hier, 20% de réservations en plus dans les trains, disait le ministère des Transports, et cette ruée vers la Bretagne, le maire de Saint-Malo, Gilles Lurton, l'a constaté.
Très nettement, nous avons constaté un arrivage de nouveaux habitants. Les trains qui arrivent de Paris sont effectivement bondés, les quais sont bondés à l'arrivée. Il y a beaucoup, beaucoup de monde à débarquer à Saint-Malo. Les personnes, compte tenu de la situation, reviennent soit dans leur résidence secondaire, soit dans des locations qu'ils ont à Saint-Malo et dans sa périphérie. C'est un phénomène qui m'inquiète, mais j'entends cette réaction des personnes qui habitent à Paris. Pour autant, je compte sur elle pour faire très attention. La situation à Saint-Malo jusqu'à présent, elle est restée stable. Ça peut basculer à tout moment. Et donc, j'appelle tout le monde à la plus grande vigilance.
Le maire de Saint-Malo, Gilles Lurton, avec Yasmina Katou.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Et je vous le disais, ça y est, c'est fait. On l'attendait depuis 25 ans, Jean-François Pérès. Eh bien, c'est fait. Alexis Pintureau, il a ce globe de cristal.
Oui, extraordinaire. Et il va falloir se rendre compte de ce qui vient de se passer. Alexis Pintureau fête aujourd'hui ses 30 ans. Aujourd'hui.
Beau cadeau d'anniversaire, ce titre.
Il vient de remporter la course en elle-même, donc le géant de l'Einzerheide en Suisse, finale de la Coupe du Monde. Il remporte le petit globe de la spécialité du ski, de géant, donc. et en même temps le gros globe de cristal de vainqueur de la Coupe du Monde de ski. Alexis Pinturo qui succède à Luc Alphand, vous l'avez dit, il avait été le dernier Français avant lui en 1997. Il y avait également Jean-Claude Killy en 1967 et 1968 et Michèle Jacquot qui avait été la seule Française en 1970. Donc il entre totalement, véritablement et magnifiquement dans la légende du ski français.
Merci beaucoup Jean-François Pérez de nous avoir fait vivre effectivement ce moment et on le voit effectivement qui est souriant derrière son masque avec ses yeux rieurs.
Ah, il a des larmes déjà, notamment larmes, avec son épouse Romane qui est venue l'étreindre sur la piste et soulever donc le gros globe de cristal qui est le trophée quasiment ultime dans le monde du ski.
Eh ben, c'est pas le même niveau, mais on souhaite le bonheur au 15 de France ce soir au Stade de France puisque les rugbymen français affrontent le Pays de Galles et ils espèrent bien effacer leur défaite de justesse face aux Anglais la semaine dernière, coup d'envoi à 21h. Et puis c'est confirmé, malheureusement, pas de spectateurs étrangers pour les JO de Tokyo à cause du Covid. Jusqu'où la Russie espionne l'Union européenne et l'OTAN? L'été dernier, on se souvient, un militaire français basé à Naples était interpellé car il fournissait des informations à la Russie. Cette fois, c'est en Bulgarie que le service héritier du KGB a été pris la main dans le sac. C'est un couple qui est à la tête d'un réseau de 6 personnes, Jean-Sébastien Soldaini.
Espion un jour, espion toujours. La maxime s'applique au chef du réseau, un ancien des services de renseignement dont la particularité est d'avoir une épouse titulaire d'une double nationalité russo-bulgare, pratique pour jouer les intermédiaires. Pendant que monsieur rencontre ses indiques infiltrés au ministère de la Défense bulgare au cours de matchs de tennis, madame rassemble les infos et les transmet à un employé de l'ambassade de Russie. En échange d'éléments confidentiels sur l'Union européenne et l'OTAN, il lui remet de l'argent pour rémunérer les membres du réseau. Le parquet de Sofia dispose de plusieurs preuves, des enregistrements de conversations, des photos de la femme entrant et sortant de l'ambassade, sans toutefois communiquer sur l'importance des documents transmis. Voilà qui ne devrait pas réchauffer les relations entre Washington et Bruxelles d'un côté, Moscou de l'autre, car la découverte intervient après l'adoption de sanctions par l'Union européenne et les États-Unis, sanctions qui visent des hauts fonctionnaires russes après l'empoisonnement et l'emprisonnement d'Alexei Navalny.
Jean-Sébastien Soldaini. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi Valérie Darmon. Du soleil sur la plupart des régions, ça c'est la bonne nouvelle, mais en revanche, il va faire froid.
Absolument Fabienne, beau mais froid avec à vos thermomètres au plus chaud de notre après-midi justement pas bien haut. 6 annoncés à Épinal, 7 à Nancy et Strasbourg, 8 degrés à Vesoul, 9 degrés à Lyon, au Havre et à Auxerre, 10 degrés à Paris et à Lille, 11 degrés à La Rochelle, 12 à Bordeaux et à Rennes, 13 degrés à Nice et Perpignan. Et puis du côté du ciel, la nébulosité qui est toujours un petit peu plus forte sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté en descendant jusqu'en Auvergne, jusque sur Rhône-Alpes. Sur les Pyrénées, les nuages qui accrochent le relief, donnant de la neige vers 400 mètres et le risque d'avalanche qui est élevé. Le Mistral et la Tramontane qui soufflent fort sur la Méditerranée, les rafales qui vont jusqu'à 90 km/h. Et c'est aussi un petit peu plus nuageux le long de la Manche, mais rien de très méchant. Ailleurs, partout ailleurs, le soleil s'impose.
Ah, bonne nouvelle, merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre.
Europe Midi. Écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Nouveau tour de vis, on le disait, pour un Français sur trois, des commerces qui referment, des déplacements limités, un appel aussi à plus de télétravail et un ras-le-bol qui semble gagner les Français quand on voit le sondage ce matin dans le Figaro qui dit que 43% d'entre eux ne sont pas d'accord avec ces nouvelles restrictions quand elles semblaient faire consensus en mars et en novembre. Bonjour Claudia Sénic.
Bonjour.
Économiste, directrice de l'Observatoire du bien-être et co-auteur avec Mathieu Perrona du rapport sur le bien-être en France, un rapport du Centre pour la recherche économique et ses applications, où vous avez notamment regardé comment les Français ont vécu le premier confinement et surtout où vous notez que les Français se déclarent nettement moins heureux que les autres Européens, même s'ils gagnent pareil, même s'ils sont en aussi bonne santé que les Danois ou les Allemands. Vous appelez ça le déficit de bonheur. Pourquoi les Français ressentent-ils cela? Et surtout, on a envie de se dire, avec ce troisième confinement et cette attestation dont on parlait tout à l'heure dans le journal, ça ne va pas s'arranger.
C'est un déficit de bonheur qu'on constate depuis longtemps, en fait, depuis, dans les données dont on dispose, depuis les années 70. Donc, c'est une espèce de rapport nostalgique au passé et un peu inquiet vis-à-vis de l'avenir et de la transformation du modèle français. Après le confinement, le reconfinement, c'est autre chose. Enfin, le premier confinement, c'était vécu comme la réaction à un choc assez effrayant, mais de courte durée. Et puis finalement, ça, cette épidémie, cette pandémie s'est transformée en un processus long et qui commence à créer un sentiment d'usure partout, pas uniquement en France en fait.
Je dis ça parce que justement, quand on voit ce déficit de bonheur dont vous parlez chez les Français, on peut se dire que pour la prise de décision pour les politiques, hein, où généralement on essaie de faire l'arbitrage, on le voit très bien hein, ces derniers mois, entre l'économie et la santé, il y a un autre facteur qui entre en ligne de compte et d'acceptabilité aussi.
Exactement. En fait, l'arbitrage entre économie, c'est-à-dire laisser ouvert les commerces et la production, et puis la santé, à savoir confiner les gens, l'arbitrage semblait se poser entre ces deux termes. Et puis finalement, on se rend compte justement avec le temps qu'il y a un troisième terme qui apparaît comme très important dans le tableau, c'est la santé mentale finalement, ce sentiment d'usure et cette espèce de dépressivité là qui monte, surtout chez certaines catégories, les personnes âgées qui ne voient pas leur famille depuis longtemps, et puis les jeunes qui sont plus socialisés et pour qui c'est extrêmement douloureux. Et donc en fait c'est ça l'acceptabilité, c'est à quel point ces sacrifices sont ressentis durement et acceptés. À quel point est-ce qu'on peut gouverner avec cette contrainte supplémentaire, finalement ces trois pieds quoi, santé, économie, santé mentale.
Et vous notiez d'ailleurs, Claudia Sénic, que lors du premier confinement, certains avaient vécu cela comme une parenthèse enchantée et que ça avait été déjà nettement moins bien vécu lors du deuxième, là, quand on voit les sondages qui sont en train de sortir. Et vous sondez régulièrement les Français quand vous les interrogez, hein, chaque année après année. On imagine que c'est encore plus difficile, effectivement, aujourd'hui.
Exactement. Nous, on a une enquête trimestrielle, en fait, avec l'Observatoire et puis l'INSEE. Et donc, on voit très bien les fluctuations de la satisfaction dans la vie et des différentes composantes de la satisfaction au gré des événements politiques ou économiques. Donc, on a vu le sursaut d'optimisme et satisfaction au moment du déconfinement, donc en mois de mai, enfin, la livraison de juin, nos données. Et puis après, évidemment, le creux terrible à partir en novembre, décembre. On peut vraiment l'observer. Et c'est vraiment lié à la perte de lien social. C'est-à-dire que toutes les questions qui ont trait à l'économie, les perspectives d'achat, etc., là, enfin, il se passe rien au cours des deux derniers trimestres. Par contre, c'est vraiment tout ce qui a trait aux relations avec les autres qui sont vraiment en berne.
Alors justement, pour ce troisième confinement qui certes concerne 16 départements, hein, mais quand même l'Île-de-France, 21 millions de personnes en tout, on nous demande plus de télétravail pour freiner l'épidémie, 4 jours sur 5, dit le gouvernement. Or le travail, c'est, vous dites, une des composantes essentielles du bien-être. Vous rappelez, moi ça m'a étonnée, hein, que pour Freud, travailler et aimer sont les deux sources du bonheur. Donc on voit bien, ça joue un rôle capital, il y a une grande insatisfaction chez les Français. Ce télétravail, est-ce que ça va rendre les gens heureux ?
C'est très intéressant parce que le télétravail, c'était une demande des salariés pendant longtemps et c'était accueilli avec une certaine réticence par la direction d'entreprise ou les ressources humaines sur le thème, bon, est-ce que télétravail, c'est vraiment travail ? Donc le premier confinement, le télétravail, pour ceux qui ont pu le faire et qui n'étaient pas dans des conditions trop difficiles chez eux, a été plutôt bien vécu, très bien vécu. Mais à la longue, on se rend compte que finalement, il y a des choses qui manquent. Enfin, tout ce qui est interaction informelle, sentiment d'inclusion, participation, etc.
Je vais traduire, Claudia Sénic. Je vous ai vu dire, on ne peut plus parader au bureau, par exemple. Traduction.
Enfin, je ne sais pas si j'ai dit parader, mais je pense effectivement qu'il y a une perte d'identité au travail du fait de ne pas soi-même se voir être en interaction avec les autres et de ne pas exister même dans le regard de ses collaborateurs en tant que travailleur. Le fait de travailler chez soi, dans une pièce ou dans son appartement, ça crée pas autant cette motivation au travail qui passe quand même par l'identité.
On voit aussi à travers vos travaux, Claudia Sénic, que les Français se sont montrés nettement plus critiques que les autres Européens sur la gestion politique de cette crise sanitaire, même si, à côté de ça, il y a une demande de plus d'État.
Oui, bon, ben ça, c'est... c'est l'éternel paradoxe, quoi. C'est l'extrême demande, le niveau très élevé de demande de protection par l'État, et puis en même temps, la réticence, en fait, à se laisser gouverner.
Qu'est-ce qui va nous en rester, justement, de cette période ?
Ah bah, je crois que il y a eu une floraison de projets utopiques. En tout cas, au moment du premier confinement, il y avait vraiment cette question du monde d'après qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va relocaliser l'économie? Est-ce qu'on va vraiment accélérer la transition écologique? Est-ce qu'on va changer la manière de vivre, de travailler, etc. Donc on va voir ce que les gens mettent en œuvre effectivement quand ça sera possible. Est-ce qu'ils vont vraiment arrêter d'acheter des produits hors saison et de prendre l'avion et même le TGV pour certains? Voilà. Et puis ensuite, le télétravail, je pense qu'on va trouver un certain degré optimal. Je ne crois pas qu'on va revenir au travail 5 jours sur 5 ou 7 jours sur 7 dans l'entreprise, mais pas non plus le télétravail complet. Enfin, les gens ont compris qu'il y avait probablement un degré entre les deux, qui n'est pas le même pour tout le monde d'ailleurs, mais un niveau intermédiaire.
Et est-ce que l'insatisfaction chronique des Français va être dépassée avec cette crise ou au contraire va se renforcer?
Difficile à savoir. Hein. En fait, cette insatisfaction, elle sera surmontée quand les Français auront l'impression d'être embarqués dans un projet qui les inclut, qui les enthousiasme et dans lequel ils peuvent se projeter.
Et donc là, on peut se projeter effectivement vers la traduction qui se fera peut-être dans les urnes, hein, au niveau politique, dans quelques mois, Claudia Sénic.
Oui, bon, bah, c'est là tout le... Enfin, c'est un des enjeux, effectivement, de la période présente.
Merci beaucoup Claudia Sénic, je rappelle économiste, directrice de l'Observatoire du bien-être et auteur chez Albin Michel avec Daniel Cohen de Les Français et l'argent, puisque ce que vous montrez très très bien aussi à travers ces travaux, c'est combien les Français sont insatisfaits aussi hein, au niveau du travail par rapport à leurs revenus, que c'est une constante ça aussi par rapport aux autres pays européens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1.
Merci à vous.
Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Un an que nous vivons avec le Covid, comment le vivent les plus petits qui ne voient plus que des yeux rieurs ou interrogateurs avec nos masques. Vous verrez que dans les crèches, on s'adapte astucieusement. Gros plan aussi sur la forêt française qui souffre du réchauffement climatique. Et puis un témoignage très fort, celui de Anne, victime de violences conjugales, qui revit depuis que son ex-conjoint est équipé d'un bracelet anti-rapprochement.